nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. On lui a dit que le train partait dans 2 heures. Il est attendu à la gare et sans savoir, il a pris le même train que sa mère ou que sa femme et le gendarme. Ils se sont pas vus. Frédéric est assis dans un compartiment. Un homme est en face de lui et le regarde. Le train file. Frédéric est inquiet. Cette histoire l'ennuie. Et puis, il ne sait pas qui il est. Est-il le mari, son père? Est-il le fils du père? Il ne peut pas être les deux. Il se dit que c'est trop compliqué. C'est plus compliqué que la poule et l'œuf. Il ne peut pas être en même temps le fils, le père et le mari. Et sa mère ne peut pas être sa femme. Il se dit que la police ne va rien y comprendre. Il aime bien Jean, mais il devrait être plus simple dans ses filiations. Il se dit que s'il va à la clinique, il va leur demander d'être ou l'un ou l'autre. est en face de lui, lui dit « J'en suis bien soucieux. » Frédéric lui dit « Moi ? Non, ça va. » L'homme lui dit « Je suis monsieur de Jean-Ju. Et vous ? Moi, Frédéric. » « Oui, c'est bien Frédéric. » Monsieur de Jean-Ju lui dit « Je crois que des Frédéric, j'en ai quelques-uns. Ils étaient très bien. » Frédéric lui dit « Eh bien, tant mieux. Vous voyagez seul ? Oui. Moi, je vais jusqu'à Paris. J'ai à voir un ami, le fils Tremblant. Vous connaissez ? Non, pas du tout. » Monsieur de Jean-Ju lui dit « C'est quelqu'un de très bien. La famille est très fortunée. Le bâtiment, l'alimentation et même, ils ont une clinique. La clinique Jeune-Tout Riquin. » Frédéric lui dit « C'est vrai ? Vous connaissez les patrons de cette clinique ?»« Oui, bien sûr. Parce que j'ai à leur parler, moi. J'ai un problème. » Un gros problème. Monsieur de Jean-Ju lui dit, racontez-moi tout ça et nous verrons. Et Frédéric lui raconte ses malheurs et ce que lui a dit sa femme mère. Jean-Ju est surpris et lui dit « Je ne comprends pas grand-chose à tout ça, mais c'est vraiment bizarre. » Nous irons voir Gilbert et nous verrons bien. Frédéric lui dit « Je vous remercie, car je dois avouer, c'est que je ne savais pas comment. » Je suis recherché par la police. Et Jean-Ju lui dit, aucune importance. La police ne peut rien contre des amis du groupe Tremblant. Et il se taise un moment. Le train continue sa route. Puis, intrigué, Monsieur Jean-Ju lui demande, « Vous croyez que vous êtes qui ?» Frédéric lui répond, « Moi, des fois, je crois, sans preuve, que je suis le père, et des fois le fils, mais sûrement que je ne sais plus rien. » Jean-Ju lui dit, « C'est normal, quelle situation délicate et désagréable. Comment ce genre de situation qu'aiment mettre les écrivains dans leurs livres pour ennuyer le pauvre personnage qui ne sait plus qui il est ? » Frédéric lui dit, « Oui, mais moi, c'est pour de vrai ? » ?»« Oui, bien sûr. Et votre femme, vous l'aimez ?» Frédéric lui dit, « Oui, bien sûr, mais je ne sais plus. Je l'aime comme une femme parce qu'elle est très belle, mais en même temps, je ne peux pas oublier qu'elle a été seulement pour moi ma mère. Je ne sais pas. Je suis très inquiet pour elle. Vous savez qu'elle risque peut-être la prison et moi la maison. » Il lui dit, ne vous faites pas de soucis. Dès que nous arriverons, nous irons voir Gilbert et nous le raconterons tout ça. Frédéric lui dit, ma mère est peut-être déjà en prison. Elle en sortira. Et puis une journée de prison, ce n'est pas la mort. Tant qu'elle n'est pas jugée, elle ne boue pas, on ne peut pas l'accuser. Et la laisser moisir comme ça. Il y aura une enquête judiciaire. Elle aura un avocat. Mais si tout va bien, elle sortira avant que tout ça se mette en marche. Frédéric lui dit, et moi, qu'est-ce que je vais devenir si je retourne chez moi? On va me prendre? Jean-Jules lui dit, ah vous, on ne voudra pas que vous viviez seul. Vous êtes mineur. Il risque, c'est de vous mettre dans une de ces maisons où vous serez avec, mis avec des délinquants de toutes sortes. Non, si votre mère reste en prison, nous demanderons de vous laisser avec nous en attendant qu'elle revienne. Frédéric lui dit, merci. Monsieur Jean-Jules lui dit, bien sûr, comme je suis célibataire, il ne voudra pas que je m'occupe de vous. Mais je suis sûr que la famille Franban le fera très bien. Ils attendent dans le couloir que l'on appelle pour le déjeuner au wagon-restaurant. Monsieur Jean-Jules lui dit, si vous voulez, nous allons au wagon-restaurant déjeuner. Merci, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Monsieur Jean-Jules lui dit, c'est moi qui vous paye, venez. Il se lève et le jeune garçon le suit. Monsieur Jean-Jules est tout fier et heureux d'avoir à s'occuper d'un jeune garçon si gentil, si mignon. Et ils vont au wagon-restaurant. Ils vont s'asseoir à une table. L'un en face de l'autre. Un serveur vient avec les cartes. Monsieur Jean-Jules demande ce qu'il veut manger. Frédéric dit, choisissez. Monsieur Jean-Jules choisit un repas bien consistant avec de l'eau de badois. Il dit,
jamais l'alcool. Mon médecin, le docteur Morel, me le dit tout le temps. C'est un homme qui, en plus d'être médecin, est très cultivé. Il adore la musique, surtout Mozart. C'est mon médecin depuis plus de 40 ans.
Une femme âgée, cheveux blancs, teint, robe bleue, roi, se penche vers M. Jean-Jules et lui dit,
c'est votre petit-fils.
M. Jean-Jules lui dit,
oui.
Elle lui dit, il est très bien
et très gentil.
Il sait bien se tenir à table. Il a de très beaux yeux bleus, les yeux de son grand-père.
Merci, madame.
Elle lui sourit. Il se lève et lui dit,
j'habite.
Elle se lève et lui dit,
j'habite Paris, Faubourg Saint-Germain, madame de Lucerne.
Monsieur de Jean-Jules, malheureusement, de passage. Je suis de Lyon, mais je voyage beaucoup avec le petit.
Il s'est levé pour dire ça. Elle lui sourit et sort du restaurant.
Jean-Jules lui dit, tu vois, on me drague par ton intermédiaire.
Frédéric sourit. Et on leur apporte leur repas et ils mangent. Retourner à leur wagon. et le train arrive à Paris. Ils sont sortis de la gare. Une fois sorti de la gare, M. Janju dit: écoutez, nous allons aller à mon hôtel, nous téléphonerons à Gilbert pour prendre un rendez-vous. Après, nous irons. Ils vont vers les arrêts des taxis pour en prendre un. Ils entrent dans un taxi, M. Janju donne l'adresse, place de l'Étoile. Pendant ce temps, John est entré dans une voiture de police pour aller quai des Orfèvres. John se demande ce qu'est devenu Frédérique. Elle est entre deux agents. Arrivé quai des Orfèvres, la voiture s'est arrêtée dans la cour. On la fait sortir de voiture et les deux policiers l'amènent à l'intérieur de l'immeuble. Arrivé à l'intérieur, il monte les étages. C'est vieux, sale. Il y a des gens qui montent, descendent, en courant, avec des dossiers. On croise des gens aussi, entourés de policiers, avec des menottes. On n'a pas mis des menottes à Jean, peut-être, parce que c'est une personnalité. Arrivé au troisième étage, ils suivent un long couloir sombre. Il y a des portes, des banquettes contre le mur. Il y a sur les banquettes des gens de tout âge et sexe qui attendent.
Un dépecissier dit à Jean, asseyez-vous. Elle s'assoit sur une banquette, un policier s'assoit auprès d'elle. L'autre policier va frapper à la porte. Entrez, il entre. La pièce est sombre. Mur jaune sale. C'est noir. Petite fenêtre avec des barreaux, une lampe au plafond, meuble en bois 1930, table de bureau, bourrée de papier, armoire à dossier, autre table avec une machine à écrire, vieille machine à écrire 1950, une chaise devant le bureau. J'ai oublié c'est de vous dire, c'est que le bureau a tout de même un ordinateur et même une lampe de bureau, tout de même, hein, faut pas exagérer. Le parquet est défoncé, par intermédiaire, et il est poussiéreux. Assis à son bureau, un homme qui semble petit, maigre, à cheveux rares et moustaches grisonnantes. Les deux policiers. Alors, elle est là. Comment ? Calme. Bien. Il soupire et dit. Quelle idée de me donner une affaire comme celle-là, à moi, qui soit à 2 mois de ma retraite. Et puis, ça peut être dangereux. Elle est de la honte. Tout ça pour des racontards d'une bonne. Son rôle était de se taire à celle-là. Elle nous met dans la barrière, dans la barre, cette fille. Qu'est-ce qu'elle avait à s'occuper des affaires de ses patrons? Elle n'a pas eu d'augmentation qu'elle demandait. Et puis, si on devait mettre en prison tout le monde, tous les patrons, oh les gens du peuple, quelle poisse! Ils nous créent que des ennuis. N'ayez jamais chez vous de domestiques. Ils seraient capables, c'est de vous dénoncer et de dire à votre femme que vous avez une maîtresse ou que vous avez empoisonné votre belle-mère. À cause de ces gens, la police est débordée. Hé, qu'est-ce que je vais te faire de cette femme, moi? Elle est peut-être l'amie de la préfète ou du ministre de l'Intérieur. Mon chef m'a refilé ça parce qu'il savait très bien que c'était dangereux. Et puis, on aurait pu prendre plus de précautions. Mais lorsqu'on a des domestiques, on se cache pour faire ces choses-là. Quelle idée a-t-elle eu de s'afficher comme ça? Les femmes, qu'elle plaît. Bon, faites-la moi entrer. Bien, monsieur le commissaire. Quel policier sort du bureau pour aller chercher Jean. On frappe. Entrez. Entre Jean. Encadré de deux policiers. Le commissaire lui dit, asseyez-vous, madame. Elle va s'asseoir. Les deux policiers sont restés devant la porte. Le commissaire lui dit, madame, vous vous avez fait venir. C'est au sujet d'une plainte et d'une enquête que nous nous sentons obligés de faire. Nous n'y sommes pour rien. Je m'en excuse par avance. Vous allez tout d'abord me donner votre carte. Elle lui tend la carte. Il la met sur l'écran. Elle lui dit, mettez votre pouce. Elle met son pouce. L'écran inscrit exact. Le commissaire lui dit, je garde pour l'instant la carte. Bien. Il ouvre une pochette. Et en sort une feuille et dit, vous êtes accusé d'inceste sur la personne de Frédéric Rivoire, âgé de 14 ans, domiciliant chez vous. Qu'avez-vous à me dire sur cette accusation? De plusieurs témoins. Jean lui dit,
Je comprends toutes ces personnes qui m'ont accusé de ce genre de choses. Moi-même, si j'avais été à la place, j'aurais pensé comme eux. Parce que ces gens ne savent pas tout. Et que la vérité ne peut être cachée. Voilà la vérité, monsieur le commissaire. Je suis veuve de mon mari depuis plus de 14 ans. Lorsque j'ai appris la mort accidentelle de mon époux, je n'ai pas pu supporter cette vérité, que je ne le reverrai plus jamais. Alors, par hasard, j'ai lu dans un journal féminin, et elle lui raconte toute son histoire. Une fois qu'elle est finie, le commissaire se demande s'il n'a pas affaire à une folle. Il lui dit, oui, oui, oui. Vous avez une preuve de ce que vous m'avez dit? Elle lui dit, oui, j'ai un papier de la clinique. Il est chez moi. Bien, bien, bien. Je vais vous amener au dépôt le temps que nous étudions votre affaire. Vous comprenez, un insecte, ce n'est pas une chose. Comme ça, c'est très sérieux. Elle lui dit, oui, mais je vous ai expliqué. Il lui dit, oui, bien sûr, mais vous êtes accusé d'inceste. Et c'est ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas vous relâcher sans enquête, vous comprenez? Elle dit au policier, vous amenez madame au dépôt, sous bonne garde. Et dites que l'on me téléphone. Policiers vont vers la femme. Suivez-nous, madame. Elle se lève et ils sortent du bureau. Le commissaire prend son téléphone et fait un numéro. Allô, Dupont, passez-moi le patron. Allô, patron, je peux venir vous voir? Bon, j'arrive. Il se lève et sort de son bureau. L'ange au pouvoir et monte les escaliers. En montant les escaliers, il croise un homme grand, mince, manteau gris, bonne coupe, il a dans les 45 ans, cheveux châtains, il a des menottes et escorté de deux policiers. Le commissaire lui demande, qui est-ce? Un des policiers lui dit, c'est médecin fou, celui qui opérait à domicile. Le commissaire dit à l'homme, quel con! L'homme lui dit, je suis un grand médecin. Le commissaire lui dit, tu croyais que tu fallais faire fortune? Comme ça, mon ami, l'immobilier, il n'y a que ça, que l'immobilier. Demande au policier, qu'est-ce que vous allez en faire? On a reçu l'ordre de très haut, c'est de le mener à la clinique John Toupontois. Le commissaire dit, encore une fois, il a dû s'échapper. Et il continue à monter. Arrivé à l'étage, il suit un couloir. Et frappe à une porte. Entrez. Il entre. C'est le bureau du grand patron du Quai des Orfèvres. Grande pièce, meublée Louis XV, avec double fenêtre derrière le bureau. Tapis sur le parquet usé, bibliothèque, vitrine, cheminée en pierre. Le patron lui dit, venez vous asseoir. Il va s'asseoir en face du bureau, dans un fauteuil. Le patron lui dit, alors, mon vieux. Le patron est un homme grand, mince, cheveux blancs, lunettes, monture, écaille, costume gris. Le commissaire lui dit, C'est une folle.
Patron lui dit, si c'est une folle, il faut l'enfermer. Mais il faut en être sûr. Alors,
elle dit qu'elle a la preuve, un papier, la clé John Toupontois qui dit que c'est vrai.
Patron réfléchit, lui dit, ah, si c'est la clinique John Toupontois, il faut faire attention. Ils font des choses bizarres. On ne sait jamais avec eux. Et puis ils ont des amis très puissants. Alors il faut enquêter. Où est-elle?
Au dépôt.
Patron lui dit, discrétion, discrétion.
Et surtout pas de maltraitance.
Cellule sol, nourriture normale.
Bien monsieur, j'ai déjà prévenu comme téléphone pour cette inculpée.
Et elle a été menée sous bonne garde.
Le patron lui dit, bien, vous continuez l'enquête
sans faire de vagues, hein.
Allez,
commissaire se lève et sort du bureau.
Jeanne dans une cellule.
Jean-Ju est dans sa chambre d'hôtel et téléphone à Gilbert. Il a à côté de lui Frédéric.
Allô? J'aimerais parler à Gilbert, s'il vous plaît. Je suis monsieur de Jean-Ju. Merci. Allô Gilbert? Je suis monsieur de Jean-Ju. Oui. Je suis de retour. Vous allez bien? Oui, moi aussi. J'aimerais c'est vous rencontrer. C'est pour une affaire très compliquée. J'ai un jeune ami qui a de très gros ennuis. Et je crois que c'est la clinique Jeune Tout pour toi qui est pour quelque chose. Si vous voulez, on pourrait se voir. Merci, c'est parfait. Je viens vous voir avec le jeune homme. À tout à l'heure.
Monsieur de Jean-Ju raccroche.
Il y a Frédéric. Nous avons rendez-vous dans un restaurant, avenue de l'Opéra, à 13h. Nous avons le temps pour vous reposer un peu. Asseyez-vous.
La chambre est une suite. Il y a un salon Louis XV.
Monsieur Jean-Jules me demande, vous désirez boire quelque chose?
Frédéric lui dit, oui merci, un jus de tomate.
Monsieur Jean-Jules va commander la boisson par téléphone.
Allô? Ici la chambre 625. Pouvez-vous m'amener, s'il vous plaît, du jus de tomate pour deux personnes? Merci.
Et il retourne vers Frédéric.
Il est tout excité d'avoir un si gentil jeune homme près de lui. Il lui dit, faites pas de soucis, tout va s'arranger.
Et à 13h, ils entrent dans un restaurant, avenue de l'Opéra. C'est un grand restaurant à plusieurs étages. Il est meublé, décoré Louis XV. Les tables sont éloignées les unes des autres. Il y a des cabinets particuliers à l'étage. Le maître d'hôtel vient vers eux et leur demande
« Vous désirez, messieurs ?»
Jean-Jules lui dit,
nous sommes invités par Monsieur Gilbert Cramblanc qui a dû commander une table.
Le maître d'hôtel regarde son écran portable et leur dit,
oui monsieur,
un cabinet particulier au premier étage. Vous pouvez bien me suivre. Et ils suivent le maître d'hôtel jusqu'au premier étage. Escalier de pierre couvert de tapis rouge. Au premier étage, il longe un couloir avec des portes et des tables. Dans le couloir, avec des couverts. Le maître d'hôtel frappe à une porte. Entrez! Ils entrent. Il y a Gilbert qui est debout.
Et de Jean-Jules dit, bonjour Gilbert, et merci de nous recevoir.
Le maître d'hôtel les laisse. Gilbert dit,
ce n'est rien. Vous allez me raconter tout ça.
Alors, selon toi,
parce que d'après vous, d'après ce que vous m'avez dit,
crois-tu sincèrement que
la clinique jeune tout pour toi, je me suis dit, il devait y avoir quelque chose de louche dans cette clinique lorsque j'y ai passé quelques jours. C'est vraiment bizarre.
La beauté n'est d'un
qui est ce jeune homme?
Spontanément. Elle ne doit rien à ton travail, ni au mien.
Monsieur de Jean-Jules lui dit, Monsieur Frédéric Rivoire, le jeune homme qui a des ennuis au sujet de cette clinique. Gilbert dit au jeune homme, ne faites pas de soucis, vous êtes ici avec des amis. Asseyons-nous. J'ai commandé le repas. Après, nous raconterons tout ça. Gilbert appuie sur la sonnette pour faire venir le maître d'hôtel. Il leur dit, j'ai pris un cabinet particulier, c'est pour que nous soyons plus tranquilles. On frappe à la porte. Entrez. Entre le maître d'hôtel.
Et de considérer la vie, la
Gilbert lui dit,
comme une limitation.
Nous allons commander le repas
ainsi. Monsieur le professeur,
et oui. Les boissons. Merci, monsieur.
Bonjour. Ce vent chaud, oui.
Voyons, ça a commencé il y a 8 jours, vendredi. Cela fait donc aujourd'hui...
Une demi-heure plus tard, tout en mangeant, Frédéric a raconté son histoire à Gilbert. Gilbert lui demande, vous êtes sûr que les papiers de votre mère sont des papiers de la clinique? Frédéric lui dit, d'après ce qu'elle m'a dit, oui, mais j'y connais pas grand-chose. Où sont les papiers? Chez ma mère. Nous pouvons y aller? Je ne sais pas. Gilbert lui dit. Jeune, dans la villa des Rivoires, qui est restée ouverte et où les domestiques y vivent encore, la police n'a pas encore donné l'ordre de mettre les scellés à la maison. Dans ces temps troubles, elle est très demandée et oublie parfois certaines choses. La bonne et les autres domestiques continuent à faire leur travail comme d'habitude.
En rangeant la chambre, de sa maîtresse, elle trouve, de son secrétaire, une chemise. Elle l'ouvre. Et voit que c'est des papiers. Elle essaye de lire ce qu'il y a dessus, ne comprend pas très bien, mais voit que c'est des papiers qui parlent des origines du fils de madame et du père. Elle se dit que ce n'est pas une bonne chose, que c'est diabolique et que madame va peut-être faire du mal au pauvre petit jeune homme. Elle soupire, prend la chemise et sort de la chambre. Elle se dirige vers la cuisine. À la cuisine, elle prend des allumettes et met la chemise dans la cheminée et y met le feu. Demi-heure plus tard, l'on sonne au portail. La bonne va demander à l'interphone.
Oui, je suis Frédéric. Vous pouvez m'ouvrir?
Oui, bien sûr, monsieur. Et elle lui ouvre. Puis, elle va ouvrir la porte de la maison. Elle voit venir Frédéric avec deux messieurs, elle se dit. Ce doit être la police qui nous le ramène. Ils arrivent devant elle. Il la fait rentrer. Frédéric lui dit, nous allons dans la chambre de ma mère. Et il monte à l'étage.
Puis, il rentre dans la chambre.
Frédéric leur dit, ma mère l'a mise en secrétaire. Il ouvre. Regarde. Ne trouve pas. Rien. Frédéric cherche ailleurs. Sur la table. Dans l'armoire. Rien. Sous la table, sous le lit, dessus l'armoire. Rien, Frédéric dit. Je vais demander au domestique. Eh ? Il sonne à la domestique. Elle a peut-être rangé ailleurs. On frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Frédéric lui dit, est-ce que vous avez vu une chemise bleue qui était sur le secrétaire? La bonne comprend qu'elle a fait une grosse bêtise et que ça risque de nuire à son petit maître. Elle lui dit, non monsieur, je n'ai rien vu. Rien du tout. Alors, Frédéric lui dit, c'est très important, il faut nous aider à chercher. Il faut chercher partout. Bien, monsieur.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistré.